Nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette édition hebdomadaire des carnets de Comaguerre et de retrouver Sidi, fidèle à la technique.
Bonjour.
Merci Sidi d'être avec nous et de retrouver les amis Roselyne, ici présente, et Habib.
Bonjour.
Bonjour à tous. Donc on va commencer par la satisfaction de la semaine, parce que de temps en temps, dans cette morosité générale, dans ces climats de guerre, d'insurrection et tout, il y a de temps en temps d'excellentes nouvelles qui réjouissent le cœur. Et pas que le nôtre, vous allez l'entendre. Vous savez certainement que le MAS, donc le parti donc fondé par Evo Morales et qui était au pouvoir jusqu'au putsch de l'année dernière, a remporté magistralement les élections de ce dimanche, magistralement en ce sens que le candidat du MAS, l'ancien ministre de l'économie du gouvernement d'Evo Morales, et son vice-président, donc, qui est un Indien, j'allais dire pur sucre, vous regardez son visage, il a effectivement, on le croirait, sorti de son village des Andes, c'est un vrai Indien. C'est-à-dire, ça donne un espèce de climat de enfin reconnaître que ce pays est un pays majoritairement indien et que les Indiens peuvent arriver au pouvoir. C'est fait. Le succès est incontestable, il a été reconnu. Alors, ils ont un peu traîné dans le camp d'en face. Au lieu de proclamer les résultats à 20h, tout le monde les connaissait. Ils ont mis 4h, mais comme effectivement le MAS avait mis en place un système de collection des données à la base, les chiffres étaient sûrs. Et donc, la victoire est nette, 53%. Et le candidat de droite derrière, il y en avait deux, est à autour de 30, c'est-à-dire il y a plus de 20, il y a 20 points d'écart entre le premier candidat de la droite et le candidat du MAS. Donc c'est incontestable du point de vue du résultat. Ils n'ont aucun argument pour rendre la vie difficile à la nouvelle équipe qui va s'installer au pouvoir. Ils essayeront, je pense, encore. Ils essayent parce qu'ils n'acceptent pas ce genre de défaite. Mais on verra, la reconnaissance internationale va suivre, l'équipe va se reconstituer, et puis ils vont devoir affronter une tâche énorme qui est de remettre le pays sur les bons rails. Mais pour ça, pour entendre les témoignages de cette satisfaction que vous ressentez dans ma voix, on va entendre un témoignage d'une amie bolivienne qui est aujourd'hui à Paris et qui défend les intérêts donc de l'immigration bolivienne et du gouvernement légal et aujourd'hui légalisé de la Bolivie, qui est Yanet Ramos, que nous avons déjà eu à ce micro il y a de ça 15 jours ou 3 semaines, je ne me souviens plus, et qui va nous faire part de sa joie. Bonjour Yanet, est-ce que tu nous entends ?
Oui, bonjour Bernard.
Bonjour, voilà, on est...
Oui, comme tu le disais, c'est vrai que c'était une grosse délivrance. Savoir non, que le peuple bolivien a choisi la voie de la Bolivie plurinationale, la voie d'une Bolivie contre le fascisme, contre le racisme. Mm-hmm. Vraiment, on a vécu une sorte de libération. Là, on essaie de suivre le retentissement, là maintenant, sur l'actualité aussi en Bolivie, et on voit maintenant des témoignages apparaître devant les grands médias boliviens, toute la persécution politique, la dimension qu'avait portée cette persécution politique, et que nous, on l'avait vécu, mais qu'il n'y avait pas cette couverture, et que là, maintenant, la presse le montre. Donc, ils essayent de se faire pardonner, je pense. Et donc, on entend maintenant des graves violations, persécutions qu'ils ont faites en Bolivie, la dictature.
Et on va trouver dans les journaux maintenant tout ce qu'ils ont caché pendant un an, presque, c'est ça ?
Oui, c'est oui. Ça. Et donc là, on est content d'en fait de ce résultat, comme tu l'as souligné, on a en marche, le parti du MAS a obtenu en marche qui lui permet de remporter la victoire dès le premier tour. Et donc on les a... Pour l'opposition, maintenant, ils étaient surpris de ce résultat. Ils pensaient qu'ils avaient détruit les masses, parce que tellement, à tel point, ils nous ont persécutés, ils nous ont criminalisés. Mm-hmm. Ils sont persécutés judiciairement à tous les candidats. Donc, ils voulaient nous décrédibiliser, nous détruire. Aussi, le fait d'être socialiste, c'était un crime.
Bien sûr.
On n'avait pas la liberté d'expression. Et je pense que c'était tellement évident tout ce qu'ils ont fait qui, je pense, ils sont montrés à cette génération aussi jeune qui peut-être s'est mobilisée contre le gouvernement de Morales. Là, on leur a vraiment montré que ce qui c'était une vraie dictature en Bolivie. Et donc et aussi, non, on a, je pense qu'ils ont pu comparer entre la façon de gouverner et l'administration au niveau économique d'un gouvernement socialiste et avec un gouvernement ultralibéral qu'en
Bien
pleine
sûr,
pandémie a
bien
multiplié
sûr.
les budgets de l'armée par 18 seulement pour se maintenir au pouvoir, pour continuer à terroriser ses opposants politiques.
Tout à fait. Parce que ce résultat remarquable suppose un très gros travail souterrain du MAS pour organiser ce qui s'est révélé à l'entière, c'est-à-dire un travail qui a échappé à la répression, qui a échappé au flicage généralisé, j'imagine. Ça, c'est.
Oui.
Oui, vas-y, vas-y, je t'écoute.
Oui, tout à fait. En fait, on y a sur place aussi les gens qui ont osé continuer, qui osaient défendre les partis. Les militants du MAS ont été persécutés, violentés, agressés, insultés dans les rues là pendant tout ce mois des campagnes électorales. Donc malgré ça, ils ont continué. Malgré la peur, malgré toutes les menaces, toutes les persécutions qu'on mettait en place, donc ils ont continué. Il y a aussi, je pense, notre rôle aussi au niveau international, parce que là, on message privé, et là maintenant que la parole commence à se libérer et que la
Oui.
presse aussi locale en Bolivie nous donne couverture,
Et oui.
donc là, on entend des témoignages comme quoi ils confirment que notre rôle au niveau international a été très, très, très important. C'était nous, en fait, qu'on relayait les informations qu'on articulait des pays de l'international aussi, à donner cette aussi expression aux gens pour faire entendre, déjà leur montrer qu'ils n'étaient pas seuls dans cette lutte.
Voilà.
Et le fait de savoir qu'ils s'étaient entendus au niveau international et que nous, on tentait de trouver justice depuis l'international. Ça leur a donné à eux le courage de continuer. Et de même pour nous. Nous, ici en Europe, on était persécutés, même les mêmes jours de sélection ici à Paris, on était menacés.
Est-ce que vous avez pu voter d'ailleurs? Est-ce que finalement vous avez pu voter?
En France, oui, on a eu
D'accord.
un bureau de vote avec quatre lieux de suffrage, on a pu
D'accord.
voter.
Ouais.
On était 693 personnes habilitées à voter en France. Et donc une centaine, un peu plus d'une centaine de personnes qui ont été exclues par rapport comparé à l'année dernière. C'est vrai qu'au niveau en termes d'inscrits habilités, on était très, très, très peu pour cette année.
Bien sûr.
Mais c'est aussi par rapport non, à la quantité de Boliviens qu'on est ici. On est très peu comparé à d'autres populations migrantes.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais la majorité de personnes habilitées, ici, le résultat, on a perdu à Paris. Donc, on a beaucoup
Ah oui.
de gens qui ont.
Ah.
Oui, sur Paris, on a perdu. Sur
Ah oui.
la France, on a perdu.
Eh oui, eh oui. Ça donne aussi une qualification sociologique de l'émigration.
Oui, je pense. En fait, il y a. Je ne peux pas décrire la population qui a voté parce que c'est vrai que quand j'analyse la population ancienne qui a migré, qui a fui les dictatures, le problème c'est qu'ils n'étaient pas habilités à voter.
Ah, voilà.
Voilà, donc c'est vrai que c'est eux qui nous ont beaucoup soutenus dans ce qu'on a dans notre mobilisation, mais c'est une population que, disons, a déjà vécu, j'imagine que la plupart peut-être sont déjà naturalisés français.
D'accord.
Et qu'ils n'ont pas fait la démarche de s'inscrire.
D'accord.
Donc, dans ceux qui étaient inscrits, la plupart, je pense que ce sont des populations plus récentes
Oui.
et que n'ont pas connu la dictature. Et qu'il y a une partie aussi, ce sont des migrants économiques des années 2000.
Oui.
Et c'est vrai que aussi dans la désinformation, il y a
Oui, bien
malheureusement
sûr.
aussi
Bien sûr.
depuis des années, par exemple, quand l'Union européenne a demandé à la Bolivie
Eh oui.
des visas pour
Eh
entrer en France,
oui. Eh
c'était
oui.
en 2007, juste un an après le gouvernement de Morales. Donc il y a
Voilà.
une partie de la population migrante bolivienne qui accuse, disons, le gouvernement de Morales de cette fermeture des frontières par rapport à la Bolivie ou qu'on nous demande des visas pour venir. Alors qu'on sait que moi, que j'étais ici, que j'ai suivi l'actualité à l'époque, c'était justement parce qu'en fait, il y avait une sorte de flexibilité au niveau de l'Espagne. Et chez
Oui,
Sarkozy,
voilà.
notamment le président d'ici, qui avait mis la pression à l'Espagne de se mettre en accord avec les règles qui sont au niveau Schengen pour limiter bah, l'accès à la migration latino-américaine. Et donc, c'est là qu'en mai 2007, ils ont mis en place l'exigence de visa pour les Boliviens. Et donc, il y a une grande partie des migrants boliviens qui renvoient la faute à Morales alors qu'il n'a rien à voir avec
Et
cette
bien entendu.
décision
Voilà.
de l'espace Schengen.
Donc, c'est très intéressant que tu nous expliques tout ça, parce qu'il y a beaucoup de groupes de différentes nationalités, on va parler de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, qui effectivement sont soumis au même type de réglementation. C'est-à-dire, vous pouvez voter, vous ne pouvez pas voter. Sans détailler au pire le cas de la Syrie qu'on connaît, nous, de près, c'est-à-dire que les Syriens installés en France de façon légale ont été interdits de vote depuis que la France a participé à la guerre contre la Syrie. Alors que c'est contraire à tous les usages diplomatiques. Donc, là, et c'est bien parce que le travail que vous avez fait, même si effectivement sur Paris, tu dis nous avons été battus, ça veut dire que c'est un travail qui a été tout à fait utile, reçu comme tel à Bogota et au pays, et qui est admirable encore plus, puisque vous étiez peu nombreux et que vous avez fait ce travail-là. Moi, je tire mon chapeau, hein, je tire mon chapeau.
Oui, on s'est articulé en fait aussi au niveau international. On était des activistes aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, en Suisse, et tous ces lieux stratégiques qu'on a utilisés pour faire des manifestations. On a collecté justement des témoignages des victimes, justement de toutes ces persécutions politiques et des abus de violences policières et militaires tout au long de ces 11 mois de dictature. Donc on a contribué à alerter ici les Nations Unies et que tous ces communiqués qui sont sortis ici, c'est grâce à notre pression qu'on a fait, des manifestations qu'on a fait, des lettres qu'on a écrites, et les peu de choses aussi que les grands médias ont commencé à sortir ces derniers jours aussi, c'est grâce à notre travail parce qu'on les a écrits, on les a presque harcelés à tous. On a fait des manifestations aussi devant Radio France, parce que c'est vrai que. Parce que si au niveau international, on
Des solidaristes,
désolidarise avec ce qui se passe en Bolivie, donc en Bolivie, les gens pensent qu'ils peuvent, ils se croient au permis et qu'il n'y a pas d'arbitre qui les
Exactement,
regarde.
exactement. Oui, l'opinion est internationale, c'est ça la règle aujourd'hui, c'est ça sur quoi vous avez travaillé. Oui, c'est très très bien, c'est très très bien.
D'ailleurs, on attend les rapports justement des observateurs internationaux qui ont pu se rendre en Bolivie et qui déjà ont suivi sur place dès avant les élections. Ils ont été, on va dire, maintenant, tous les paramilitaires, ils n'ont pas utilisé leur nom, disons, de groupe, par exemple, la résolution. Les
Ah,
Jóvenes
d'accord.
Cristianos ou les Jóvenes Cristianistas sont des groupes paramilitaires. Mais là, pendant ces quelques semaines qui ont précédé les élections, ils ont préféré agir en tant qu'individus, en tant que citoyens. Et par exemple, là, ils ont tenté d'intimider les observateurs internationaux. Déjà, même la police a tenté d'arrêter. Il a détenu pendant quelques heures un député argentin qui faisait partie. C'est un parlementaire qui venait invité par l'Assemblée plurinationale de la Bolivie comme observateur. Et on l'a arrêté pendant quelques heures sous l'excuse qu'il venait faire des troubles en France. Et en fait, on nous reprochait d'avoir fait partie de la commission des droits humains des Argentins qui sont venus en décembre 2019, justement pour faire le relèvement. Des violences qui se sont passées pour les massacres, de ce qu'on a connu ensuite après, en parallèle de la mission de la CIDH, de la OEA justement aussi, sa section des droits humains. Donc il y a eu aussi une commission de droits humains argentins qui sont venus, donc du coup ce député-là, il faisait partie de cette mission, et donc c'est pour ça qu'on lui a réservé cet accueil. On l'a détenu à l'aéroport, il y a eu les vidéos sur les réseaux sociaux et sur la presse bolivienne. Et on a eu en pleine campagne électorale mercredi matin à ses catégories, c'est la clôture de sa campagne à Cochabamba, parce que dans chaque ville, il a fait sa clôture.
Oui.
Mais à Cochabamba, tu avais les avions de chasse qui circulaient au-dessus de la tête des gens. Donc ça, c'était pour intimider. Donc toute cette machine qui sont mises en place pour intimider les gens, en fait, n'a pas payé. Les gens sont quand même en partie votés, malgré la militarisation qu'il y a eu de tous les pays, malgré tous les chars de guerre qui étaient dans la rue, malgré les tentatives de boycott de vote. Par exemple, il y a eu beaucoup, on a nous aussi, de l'étranger, on a aidé dans les relèvements de toutes ces violences qu'il y a eu dans la journée du 18. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de personnes majeures, de personnes âgées, qui attendaient, non, pour leur tour pour pouvoir voter. Et ça avait les militaires qui venaient, pas tout le monde, non, mais certains militaires qui venaient dire aux personnes majeures non, non, qu'ils n'avaient, qu'il n'était pas obligatoire de voter pour eux, que c'était mieux de rentrer chez eux. Donc il y a eu une tentative de dissuasion aussi sur place comme ça. Et comme on l'avait déjà dénoncé il y a déjà un peu plus de 2 semaines sur les boycotts au vote, notamment tant à l'étranger qu'au Mont-Sion de Bolivie. Donc là, on a eu beaucoup de gens qui se sont rendus au bureau de vote et ils ont appris qu'ils n'étaient pas inscrits. Et il y en avait beaucoup qui tentaient, comment dire, de protester sur place et dire, mais pourquoi, si j'ai voté toutes les années, pourquoi il n'y a pas de raison? Et donc c'était des gens qui voulaient voter. Et quand on analyse aussi quelles sont les populations et de quelles régions ont été retirées, ce sont des gens, notamment des campagnes. Et par exemple, dans les 50 000 votes des personnes inhabilitées pour cette élection pour pouvoir voter, seulement en Argentine, c'était 24 000 personnes qui n'ont pas pu voter. Donc ma cousine aussi, que j'ai appris 2 jours avant qu'elle avait été retirée des listes électorales, pareil, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas l'Internet qui n'était pas informée. Elle était surpris parce qu'en plus elle me disait aussi, j'ai voté chaque année,
Et pourquoi j'en
comment
parle?
ça se fait, pourquoi, voilà. Et c'était total, en fait, on pouvait rien faire. Et donc quand on regarde ça, je pense que là, c'est vrai, les chiffres préliminaires nous donnent 52-53%. On attend toujours les résultats définitifs du comptage officiel. Mais je pense qu'avec les 5 à 6% qui sont retirés des personnes inhabilitées, au moins 4 à 5% c'était des gens qui allaient voter pour les masses.
Bien
Donc
sûr,
si on
bien sûr.
rajoute à ces 53% plus ceux qu'on nous a retirés, je pense que facilement on peut atteindre et arriver les
Vers 60,
60%.
ouais, 60. Non, c'est d'autant plus remarquable. Mais je crois que
Oui.
merci beaucoup, Yannette, pour expliquer tous ces détails, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les médias se concentrent sur un vote et il faut aller chercher les conditions du vote. Qui a le droit de s'inscrire? À quel âge? Dans quelles conditions matérielles on vote?
Tout à fait.
Pour bien comprendre la portée d'une élection.
Oui. Là, on a un travail de faire reconnaître justement cette dictature. Et c'est bien qu'il y a eu, malgré la pandémie, beaucoup de personnes au niveau international, des observateurs internationaux qui se sont rendus en Bolivie, qui ont pu, maintenant, qui peuvent mettre dans leur rapport, peuvent témoigner de cette ambiance d'intimidation qu'il y en avait, et que même ils ont fait l'objet, parce que comme j'ai dit, il y a la commission d'Argentine qui a été menacée, il y a aussi les groupes de Podemos d'Espagne qui étaient menacés sur les réseaux sociaux, justement, ces citoyens qui citaient les paramilitaires, ils ont fait circuler leur adresse de leur hôtel avec leur nom et photo.
Et voilà.
Donc, avec quelle intention? Donc
Bien
on fait
sûr.
circuler
Des
leur nom,
menaces.
prénom et lieu où ils
Bien
sont
sûr.
hébergés.
Bien sûr. Menaces. Donc c'est très bien que tu nous expliques tout ça, parce que ça donne encore plus de lustre au succès du MAS et ça donne plein sens au retour de la démocratie après cet épisode fâcheux de fascisme, heureusement avorté. Yannette, on te redonnera la parole dès que nécessaire, parce que je pense que maintenant il faut détricoter, j'allais dire, toutes les saletés qu'a signées Madame Agnès pendant ces 12 mois de pouvoir ou 11 mois. Et il y a un gros travail qui vous attend, mais on vous soutiendra jusqu'au bout là-dessus.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Bernard. Et il y a beaucoup de choses qu'on doit, comme tu dis, de côté, surtout à faire reconnaître qu'en Bolivie, nous avons un coup d'État, une dictature,
Exactement.
Et donc, il faut qu'on obtienne des justices pour toutes les victimes de ce coup d'État. Et même, il y a eu beaucoup de désengagement économique qui a fait ce gouvernement, outrepassant justement les compétences de l'Assemblée nationale, de notre Assemblée plurinationale, qui avait la compétence de valider tous ces crédits,
Voilà.
mais que la présidente a passé, elle a signé des
Voilà,
crédits avec le
exactement.
Fonds monétaire international. Même
Oui.
la France, on lui a fait un crédit de
Tout à fait.
100 millions d'euros. Et au nom de la pandémie, mais on n'a pas vu cet argent dans la pandémie, ni dans l'embauche de matériel pour la santé, ni pour le dépistage. Et on a ce qu'on a vu dans les constatations qu'on a dénoncées la semaine dernière aussi avec votre radio, c'était la multiplication du budget de l'armée, de la
Bien
police
sûr,
par
bien sûr.
18.
Par 18.
Donc ça, on doit.
tout est dit quand on a dit ça.
Oui.
Multiplication. Voilà,
C'était
j'ai
même
bien.
pas une augmentation de 18%, mais multipliée par 18. Donc
Voilà.
là, on va demander d'ici de notre côté aussi au gouvernement français quelles sont les garanties qu'ils ont, comme quoi l'argent qu'ils ont prêté, c'était
À quoi il
destiné
a
à
servi,
la santé
exactement.
et pas dédié à justement au
Exactement.
budget de l'armée.
Exactement. Merci. Une dernière question. Est-ce que Evo rentre bientôt ou est-ce qu'on l'attend pourquoi un peu plus tard?
Je ne pas cette information, mais je sais que là maintenant qu'on a la démocratie de retour, qu'on essaie de rétablir l'institutionnalité, que si c'est vrai qu'on lui avait au moins une trentaine de procès,
Ah, oui.
donc j'imagine qu'il va être bien occupé en Bolivie pour répondre peut-être à
Bien sûr,
tous ces
bien sûr.
procès ouverts, mais maintenant il n'y a pas cette menace de mort, donc, même si je pense qu'il rentre là les putschistes, ce ne sont pas des gens tendres, ce ne sont pas des gens qui savent
Bien sûr.
perdre.
Non, non,
Donc
exactement.
j'imagine qu'il va
Être prudent.
voilà, il va être prudent, plutôt dans sa région. Mais je pense que on a une victoire, mais on n'a pas tué, je pense, là, les serpents. Pour qu'on
Tout à
fasse un
fait.
grand travail de réconciliation
Tout à fait.
avec les citoyens, mais je pense qu'il faut qu'on obtienne justice par tous ceux qui ont
Bien
commis
sûr.
des graves violations en Bolivie.
C'est voilà.
Et ça va pas être facile. Donc, Morales représente, c'est quand même le leader de tout ce mouvement.
Bien sûr.
Et c'est une menace pour eux. C'est une menace. Donc, du
Bien
coup,
sûr.
pour moi, il reste menacé. Sa vie il reste en danger.
Et c'est une grande leçon pour tout le monde, parce que détricoter même 11 mois de fascisme, c'est un énorme travail.
Ça a été
Oui.
hein, c'est ça. Bon, on vous souhaite un énorme courage. Et puis la chanson qu'on va passer après, ben, ça pouvait pas en être une autre. Hein. C'est El Pueblo Unido, bien sûr.
Merci
Yannette,
beaucoup.
grand merci. On
Non, merci à
t'embrasse
vous
pour la
aussi.
victoire.
Merci beaucoup, Bernard,
À
pour
bientôt.
l'espace. À bientôt, au revoir.
Donc on l'interrompt là pour continuer notre émission. Deux commentaires que je fais. Pour moi, l'émotion que j'ai ressentie à l'écoute de cette victoire et de cette revanche sur le fascisme, ça m'a renvoyé à un passé très ancien, mais après tout, on a l'âge qu'on a. Un certain après-midi du 11 septembre 73, je défilais sur la Canebière parce que Salvador Allende avait été assassiné par les fascistes. Et c'est une espèce de revanche. Hein, d'abord, Morales n'a pas été assassiné, et puis le peuple bolivien a réussi à détourner la balle. Il n'est pas mort. Voilà. Et ça,
très rapidement.
Très rapidement, en plus. Voilà. Donc ça, c'est bien, c'est une leçon du temps. Et puis ça rappelle alors ces événements-là qui étaient très fâcheux, l'assassinat, la liquidation d'Allende. Et puis, un dernier souvenir à propos de Morales et des rapports avec la France, parce que la France donc, a fait des difficultés pour laisser voter les ressortissants boliviens, on l'a compris. Il y a de ça quelques années, je ne me souviens plus de la date, mais les faits sont connus, Morales revenait d'une réunion à Moscou, il avait donc son avion présidentiel qui n'est pas, Air Force One, hein, c'est un petit avion comparé à celui du président des États-Unis. Et dans le parcours, donc pour rentrer de Russie, de Moscou à la Bolivie, il devait survoler le territoire français. Donc c'était prévu, ça avait été annoncé, en plus les voyages du chef d'État, enfin, il y a un certain nombre de codes internationaux, ça se sait, on se dit, on ne lave pas les avions présidentiels. Et à un moment donné, la France lui interdit le survol de son territoire. La France de François Hollande, je précise, lui interdit le survol de son territoire. J'allais dire, délit de sale gueule, rien de plus, hein, voilà, il ne voulait pas. Or il se trouve que... il était obligé de faire un détour, je ne sais pas exactement par quel parcours, et il se trouve que le carburant qui était dans l'avion a été calculé sur ce trajet-là, qui était le trajet court. Et donc l'avion de Morales a été obligé de se rapatrier sur l'Autriche, où on a accepté de le laisser atterrir et de lui faire le plein, pour qu'il puisse reprendre son parcours. Mais voilà les crapuleries, c'est ignominable, voilà, du gouvernement de la République française. Hein. Donc, ils n'aimaient pas Morales, ben voilà, c'était, à la limite, c'était leur droit. Mais pas ça, on ne fait pas ça. C'est se salir les mains pour pas grand-chose. Ben, c'est pas beau, François Hollande, j'allais dire. Si tu écoutes, mais tu écoutes pas, tant mieux. voilà. Mais moi, je m'en souviens parce que ça n'a pas grandi ton électorat. Hein. Bon. Passons, alors, on reste dans une rubrique à caractère électoral. On va parler un peu d'Afrique, où là aussi, la question de qui vote, qui a le droit de voter, comment il peut voter, comment on manipule la liste électorale et tout, devient un enjeu central. C'est-à-dire, je reviens à cette question fondamentale. Aujourd'hui, aucun gouvernement n'est capable de dire « il n'y aura pas d'élection ». C'est trop ancré dans la civilisation humaine. Les citoyens s'expriment par un vote. Alors, tout le travail maintenant donc des réactionnaires, des fascistes et tout, consiste à trafiquer le vote, à faire des pressions avant de l'opinion, trafiquer les listes, trafiquer les urnes. Enfin, il y a 50 000 façons, trafiquer les systèmes électroniques qui permettent. Donc, il n'est aujourd'hui pas possible de supprimer la notion même de vote, parce que ça veut dire quoi? Qu'on est revenu à la monarchie, enfin, dans les temps trop anciens. Donc, il faut trafiquer le vote. Alors, je vais vous parler d'un vote trafiqué. Le premier, puis on en parlera d'un second après, concerne la Guinée. La Guinée, donc, la partie de la France-Afrique, avec à sa tête donc, un président qui est en train d'achever son deuxième mandat. Il s'appelle Alpha Condé, il a 82 ans, 84, je crois que c'est 82, si je ne me trompe pas. Bon. Et il voulait se faire élire. Alors, il avait trouvé d'abord un artifice, et on va le retrouver ailleurs, cet artifice, puisqu'il a fait école. C'est-à-dire que, pendant son deuxième mandat, il a fait modifier la Constitution de telle façon que la Constitution qui prévoyait qu'on ne faisait que deux mandats ben permet d'en faire un de plus. Voilà. Donc voilà, ça c'est déjà un bricolage, une crapulerie, une escroquerie politique, etc. Très clairement. Bon. Et donc, au nom de cette manipulation de la Constitution, disant, ben, puisque maintenant on a droit à trois mandats, je vais en faire un troisième. Hein. Et puis peut-être il mourra au poste, à l'âge qu'il a. Bon, c'est assez... Et donc, il a tenté sa chance. L'élection a eu lieu ce dimanche. On n'a toujours pas les résultats officiels, mais son opposant historique, qui a, lui, pas tout à fait 70 ans, je crois qu'il a 68 ans, M. Sélou Diallo, oui, tu connais, M. Sélou Diallo dit déjà qu'il a gagné. Alors, on va voir ce qui va se passer, mais en fait, effectivement, je voulais parler de manipulation électorale. D'une part, manipuler la Constitution quand on est aux affaires, quand on est à la présidence, et puis, deuxièmement, manipuler la liste électorale. Et je vais vous donner des chiffres qui vont vous faire rêver. Il y a 8 millions d'électeurs potentiels en Guinée. Et bien, il se trouve qu'en travaillant bien, j'allais dire en trafiquant bien les listes, Monsieur Alpha Condé est arrivé à baisser le nombre d'électeurs de 3 millions sur 8. Il ne reste plus que 5 millions de personnes qui ont pu voter dimanche. Donc, imaginez bien que les 3 millions, ce n'est pas les électeurs favoris de Monsieur Alpha Condé. Ils ont plutôt allé chercher de l'autre côté. Alors, c'est assez facile, il y a des questions régionales, de quartier, etc. Hein, et donc, tout d'un coup, on dit, ben, ceux-là, ils n'ont pas le droit de voter, et tant pis pour eux. Et donc, l'élection se fait avec un tiers du corps électoral qui a été mis à la porte. C'est ça, les trafiquants, le traficage électoral. Alors, on n'en sait pas plus aujourd'hui, donc les résultats officiels ne sont pas proclamés. Monsieur Alpha Condé doit être un peu embêté quand même, parce qu'apparemment il a perdu. Monsieur Sélou Diallo a l'air sûr de son fait. C'est la troisième fois qu'il tentait le coup, il s'était déjà fait prendre deux fois. Hein. Donc il a dû se préparer, lui, ses amis, pour organiser la surveillance des bureaux de vote et tout, recouper les résultats sur ses bases à lui. Donc il a l'air assez sûr de son coup. Mais il risque, alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est la réaction de Monsieur Alpha Condé, qui peut être une réaction violente. Alors, il y a déjà eu des tirs dans la foule après les manifestations de joie de dimanche soir. Or, rien, la police est là pour réprimer une manifestation. Il y a trois adolescents qui étaient là qui sont morts. Tir à balle. C'est pas simplement des gaz lacrymogènes. Tir à balle sur la foule qui fêtait la victoire de M. Diallo. Bon. Ça, c'était dimanche soir. On va voir. Et puis, que va faire le chef de la France-Afrique ou les chefs de la France? Est-ce qu'ils vont accepter que leur créature, hein, Monsieur Alpha Condé, qui est un des hommes forts de la France-Afrique, qui se coordonne dans la CEDEAO, la Communauté économique des pays de l'Europe, d'Afrique occidentale, d'Afrique de l'Ouest, la France veut encore mettre son grain de sel. Donc on a là une situation ouverte, mais je voulais insister sur la manipulation électorale, sur l'exclusion donc, de 3 millions d'électeurs sur 8 par des manipulations politiciennes, hein, faites par un monsieur qui est président, mais qui se comporte comme un espèce de dictateur. Bon. Ça, c'est pour la Guinée. C'est déjà pas mal. Et puis on va parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où effectivement on a un président qui finit son deuxième mandat, qui se représente pour un troisième, et qui lui aussi, exactement le même schéma, comme s'ils allaient tous à la même école, il y a des stages de formation pour dictateurs de la France-Afrique, on leur dit, ben voilà comment il faut faire pour rester au pouvoir, et ces messieurs appliquent la même recette, ils ont tous le même livre de cuisine, hein. Ben, vous arrivez au pouvoir, puis vous changez la constitution, et vous pouvez rester jusqu'à votre mort, c'est presque ça, quoi. Bon. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, M. Ouattara, fait exactement la même chose que M. Alpha Condé, qui est son ami, avec qui il s'en sort fort bien, et puis ils ont la même pratique politique. Donc il a décidé, pendant le deuxième mandat, de faire modifier la Constitution, qui lui permet de faire un troisième.
Alors, vas-y. A priori, donc, la modification qu'il a faite ne lui permet pas de faire un troisième mandat. Ah, tu allais en parler.
Oui,
d'accord.
Mais vas-y,
non,
okay. Mais explique.
Non, mais voilà, simplement, les experts constitutionnalistes, voilà, disent qu'il ne lui est pas possible, voilà, de se représenter pour un troisième mandat.
Voilà. Parce que le texte dit bien que toute personne ayant fait deux mandats ne peut pas se représenter. Alors lui, il dit, mais ce n'est pas la même constitution. Voilà l'astuce. Donc il dit, ce n'est pas la même constitution puisqu'elle a changé. Et au terme de la nouvelle constitution, je peux non seulement me présenter une fois, mais trois. Ce qui est une catastrophe absolue pour la population ivoirienne et la Côte d'Ivoire.
Surtout lorsque l'on sait les conditions dans lesquelles Ouattara a été installé par la force des armes françaises à son poste en 2011.
Voilà, un bon plan effectif. Non, attends, ne pas toucher le micro, ça a bouleversé le son. Voilà. Et donc on rappelle qu'effectivement, M. Ouattara n'a pas été élu par les électeurs ivoiriens en décembre 2010, qu'effectivement le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême plutôt ivoirienne a proclamé les résultats disant que M. Laurent Gbagbo était élu, et que c'est la Commission électorale indépendante, le représentant à Abidjan de l'ONU, SIC, qui a prononcé des résultats. Hein, qui sont faux, tout simplement. Mais comme ces messieurs ont fait disparaître tous les bulletins de vote, il a été impossible d'accéder à la demande de Laurent Gbagbo de recompter, démarche tout à fait honnête, et donc on a considéré que M. Gbagbo avait perdu. Alors il a tellement perdu qu'effectivement il a été chassé militairement par l'armée française de son palais, de sa résidence de président. Il a été, vous le savez, exfiltré et envoyé, d'abord mis en cage pratiquement dans le nord du pays, et ensuite exfiltré une belle nuit vers la Cour pénale internationale, dont il vient de sortir, car tout ce qu'on a reproché à M. Laurent Gbagbo était faux. M. Laurent Gbagbo a été acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui. Donc M. Gbagbo a gagné les élections de 2010 et il doit rentrer dans son pays, ce qui n'est pas encore tout à fait fait. Alors, ce que M. Ouattara est en train d'organiser pour les élections qui ont lieu dans 15 jours maintenant, c'est donc son troisième tour, sans M. Gbagbo, à qui on a ajouté un procès, qu'on a retiré des listes électorales et on l'a privé de ses droits civiques pour qu'il ne puisse pas se présenter, et de son passeport. Et donc, on n'a laissé que deux compères pour des élections qui sont là, sur lesquelles je ne veux pas porter de jugement, mais enfin, j'en ai un, mais je n'en dirai pas plus, qui sont là pour faire valoir, parce que M. Ouattara fait tout pour dire, mais il y a eu une élection, j'ai été élu. Il y a une espèce de, voilà, élection de facto. Alors quand même, il faut savoir que les listes électorales, là aussi, sont trafiquées, et qu'en plus, ce qu'on ne dit pas, c'est que les partisans de M. Laurent Gbagbo, qui sont organisés dans le parti qu'il a lui-même fondé, qui s'appelle le Front Populaire Ivoirien, le simple fait d'être militant du Front Populaire Ivoirien, ça conduit en prison. Et en prison, sans aucune accusation, en prison, vous êtes ramassé un jour dans la rue, vous êtes en prison, comme dans un régime fasciste, vous n'êtes même pas jugé, c'est-à-dire vous êtes un prévenu, on va vous garder 2, 3, 4, 5 ans comme prévenu en attente d'un jugement hypothétique, c'est autant de militants en moins et autant, effectivement, d'électeurs en moins. Voilà. C'est ça aussi qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et je voulais donner, parce qu'on a reçu un document récent, quelques éléments sur ces prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, où va donc se tenir un scrutin présidentiel, je mets d'énormes guillemets, démocratiques, avec les opposants politiques, les organisateurs, les militants du FPI, de Laurent Gbagbo, qui sont en prison. Il y en a presque 200. C'est-à-dire que tous les cadres du mouvement sont en prison. Et comme ça, effectivement, le mouvement ne peut pas faire campagne. Les résultats sont tout à fait clairs. Alors, cette liste est publique aujourd'hui. Elle a été diffusée et signée, d'ailleurs, puisque c'est un travail collectif, mais elle a été signée par un certain Michel Gbagbo, dont je cite le nom, puisqu'il se trouve que Michel Gbagbo, qui est le fruit d'un premier mariage de Laurent Gbagbo, est un citoyen français qui a la double nationalité ivoirienne, et qu'il a été, après avoir été emprisonné lui-même parce qu'il était le fils de son père, ce qui est un motif qui, au niveau du droit, est tout à fait discutable, bon, il a fini par être libéré, et il participe à ce travail tout à fait important pour démontrer que la démocratie qui est à l'œuvre aujourd'hui en Côte d'Ivoire est une fausse démocratie avec trafiquage, menace, trafiquage des listes électorales, emprisonnement des militants d'opposition, et le soutien de la France qui ne laisse, enfin qui, soi-disant, se préoccupe, mais laisse faire, parce qu'en fait, ils jouent exactement la même stratégie que Ouattara, c'est-à-dire qu'ils sont mis d'accord là-dessus. Les élections seront ce qu'elles seront, discutables, on va couper les chemins en quatre pour savoir qui n'a pas participé, si, ça et tout. Mais il y aura une élection, deux personnes, enfin il y en a d'autres, mais deux personnes se seront présentées contre M. Ouattara, elles auront perdu, et bien elles seront obligées de s'incliner devant le scrutin. Voilà, une
personne.
Pourquoi Bédia a arrêté ?
Non, mais ils sont.
Non, il y en a d'autres.
Ils sont quatre en tout.
Voilà.
Ouattara, donc, Bédier,
Afinguessan et le quatrième, j'ai oublié.
Kwadwo Konan, Bertin.
Voilà.
Et il ne reste que Bertin. Les deux autres se sont retirés des élections.
Oui, mais l'élection aura lieu.
Avec deux candidats.
Oui, ben voilà.
Et des Ivoiriens qui répondent au mot d'ordre de désobéissance civile, qui ne sont pas allés retirer leur carte d'électeur.
Oui. Oui. Non, mais le risque, c'est qu'effectivement, même s'il n'y a eu que la moitié du corps électoral qui est venu, il y a eu une élection, il n'y avait personne devant moi, ben, je suis là. C'est ça le piège. Hein, le piège on a, tout aura été trafiqué d'un bout à l'autre. Hein, y compris parce que les deux autres ne se présentent pas, mais de fait, l'élection se déroule. Voilà. C'est ça. Bon, on en reparlera, puisque c'est dans 15 jours que ça se passe. Voilà. Bon, c'était déjà pas mal. Je vais vous parler un petit peu de la Tchétchénie. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, non pas pour... Enfin, je pourrais évoquer effectivement ce qui amène à parler aujourd'hui de la Tchétchénie par rapport à l'événement dramatique qui a eu lieu la semaine dernière, vous savez tous, donc les réactions qu'il y a eu. Mais je voulais rappeler que c'était tout au début de la présidence d'Emmanuel Macron. Il avait reçu à Versailles un certain Vladimir Poutine. Alors pourquoi il l'avait reçu à Versailles ? Non pas pour jouer le successeur de Louis XIV, mais simplement parce qu'il y avait à Versailles une exposition à l'époque, une exposition montée, une exposition franco-russe, qui était encore entre les deux gouvernements, pour montrer les relations entre l'Empire russe du temps de Pierre le Grand et la France, qui avait une vieille relation politique entre ces deux pays à l'époque. Donc M. Macron, tout jeune président, reçoit M. Poutine à Versailles, Et donc il y a, comme ça se fait classiquement à la fin de la rencontre, une conférence de presse commune. Alors vous connaissez le tableau classique, les deux pupitres, chacun qui parle à son tour, chacun avec ses écouteurs pour avoir la traduction, etc. Et Monsieur Macron, alors j'aurais pu vous faire passer l'extrait, il y a 1 minute 30 assez extraordinaire dans son discours, où il se met à donner les leçons à Monsieur Poutine, qui heureusement, je pense, a des nerfs d'acier, et qui écoute sans broncher. Et M. Macron donne des leçons à M. Poutine sur la façon dont il faut traiter les Tchétchènes. Alors souvenez-vous, parce qu'à l'époque, on disait beaucoup... Alors vous savez qu'effectivement, le gouvernement de la Fédération russe a eu beaucoup de fils à retordre avec les Tchétchènes. Il y a eu 2 guerres de Tchétchénie pendant la décennie 90, une première puis une seconde. La seconde a été finalement une défaite des terroristes tchétchènes, appelons ça comme ça, qui ont tenté des opérations extrêmement violentes, extrêmement dures. Souvenez-vous du phénomène à l'Opéra de Moscou, de les spectateurs pris en otage par un commando. Bon, ça a été réglé le minimum de casse possible. Enfin, donc, c'était le pouvoir d'État russe était menacé par cette rébellion djihadiste tchétchène. C'est terminé aujourd'hui. Alors c'est terminé, non pas parce que les Tchétchènes ont été enlevés de la réalité moderne. Il y a encore des Tchétchènes vivants. Simplement, il y a aujourd'hui installé en Tchétchénie un gouvernement légal qui respecte la constitution de la Fédération russe, qui est dirigé par des Tchétchènes, avec un président qui s'appelle M. Kadyrov, et qui a reconstruit le pays après toutes les destructions qui avaient été organisées pendant les 10 années de terrorisme tchétchène. Donc, j'insiste bien là-dessus.
Une partie de ces terroristes tchétchènes se sont rabattis.
Voilà. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ceux qui avaient choisi, alors ceux dans les Tchétchènes, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est pas les Tchétchènes ou la communauté tchétchène, ça veut rien dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a en Tchétchénie des Tchétchènes qui gouvernent dans le cadre des lois de la Fédération de Russie et qui ne sont pas des terroristes. C'est tout à fait clair. Par contre, ceux qui étaient passés au terrorisme, et qui avaient des financements classiques, on connaît ça, l'Arabie Saoudite, ou le Qatar, ou les Émirats Arabes Unis, eux sont restés des terroristes, puisque c'était ça leur carrière politique. Et donc, comme ils n'ont plus pu sévir en Tchétchénie, ils sont allés ailleurs, on les a exportés. Alors, on en avait déjà exporté en Bosnie-Herzégovine, souvenez-vous. Et puis après, on en a exporté en Syrie, où il y en a encore. Et puis, apparemment, on en a exporté encore un certain nombre. En Azerbaïdjan, en Arménie en ce moment, pour continuer le conflit qui est en cours, sur lequel je vais revenir un tout petit peu. Voilà. Donc, j'insiste bien là-dessus, d'une part. Donc, le gouvernement de la République française et son président en exercice s'est permis de donner des leçons en disant il faut être gentil avec les Tchétchènes. Et c'est à partir de ces leçons-là que la France a décidé de donner très facilement l'asile à des Tchétchènes, quelle que fût leur origine, qu'ils aient été dans le camp des respectueux de la Ligue ou dans le camp des terroristes. C'est ça qu'il faut savoir. Hein. Ça, le gouvernement français l'a voulu, il l'a dit dans la bouche de M. Macron. Hein. Et il a montré du doigt la Russie en disant « vous aimez... » Non, alors la Russie ne se méfie pas des Tchétchènes. Il y a aujourd'hui, en Tchétchénie, des Tchétchènes au pouvoir qui exercent leur pouvoir normalement, qui ont redonné une santé à ce pays qui était très, très abîmé par la guerre civile qui avait été organisée par les terroristes. Voilà. Alors, ne mélangez pas, c'est pas quand je dis Tchétchène que je mets tous les Tchétchènes comme je ne mets pas tous les musulmans. Voilà, toutes les stupidités de mettre une communauté, de mettre une étiquette sur tout le monde, ça ne tient pas debout, ça ne sert qu'à diviser, ça ne sert qu'à engendrer du sang et des larmes. C'est ça qu'il faut savoir. Donc je voulais rappeler ça parce que la responsabilité de M. Macron est énorme. Elle n'est pas moindre que celle de M. Hollande et celle de M. Fabius. Je rappelle que M. Fabius s'est quand même permis de dire que Al-Nosra faisait du bon boulot. Je rappelle que M. Fabius s'est permis de dire que Bachar el-Assad n'avait pas de place sur la terre, ce qui est un appel à l'assassinat politique. Là, les mots ont leur sens. On n'est pas président du Conseil constitutionnel, ancien Premier ministre, énarque, etc. On ne dit pas des mots pareils. C'est un appel au meurtre de dire que ce monsieur ne doit pas être sur la surface de la terre. C'est ça.
Pas la sagesse.
Mais non, c'est pas la sagesse. C'est un geste politiquement extraordinairement dangereux. Donc, ces personnages-là, qui tout d'un coup découvrent que, mon Dieu, il y a des problèmes dans les communautés, ci et ça et tout, sont des gens dangereux. C'est des personnes qui mettent le désordre. La dernière expression du désordre remonte au discours des Mureaux. On était donc, je crois, le 2 octobre. Le président de la République française en exercice, dont vous connaissez le nom, mais j'arrive pas à le redire tout le temps parce que ça me gratte un peu la langue et la gorge. Bon. Le président de la République vient à parler de séparatisme. Alors il y aurait donc sur le territoire de la République française, dans ces 65 millions de personnes, des gens qui voudraient casser la France en petits morceaux, ou quelque chose comme ça, séparatisme, prêt à mettre des bombes, enfin, tout est possible. Alors il parle de séparatisme, il dit, tiens, ben, d'où ça sort, qu'est-ce qui lui prend? Et il ne parle que de séparatisme islamique. Il n'y a que ça qui le préoccupe. C'est-à-dire, il essaye de diviser la population française entre ceux qui sont musulmans, librement, et ceux qui ne le sont pas. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il tient un discours, alors les journalistes vous disent, un discours, un appel à l'unité nationale. Non, non, messieurs, écoutez bien les mots. Emmanuel Macron fait un appel au rassemblement national. Ça ne vous dit pas quelque chose quand je vous dis rassemblement national? Rassemblez-vous contre les musulmans. C'est criminel, je le dis, c'est criminel. C'est pas ça l'unité nationale. Voilà. Donc on a, voyez, alors sur ce terrain-là, après on arrive à des événements dramatiques comme ceux qui viennent de se dérouler. Mais qui a mis le verre dans le fruit? Qui a tenu ces discours sur le séparatisme islamique? Voilà. C'est très très facile de dire ça. Oui, on fait des jolies phrases, on dit la laïcité et tout. Mais on a joué à ça. On a joué à ça quand on a donné les leçons à Vladimir Poutine en 2007. On dit, ah, vous devriez respecter les Tchétchènes. Bon, voilà. Voilà, tous ces mélanges-là sont des mélanges extrêmement dangereux. Le fait de se faire appeler... Alors, je vais m'arrêter un dernier moment sur le mot de communauté. Le mot de communauté est un mot extrêmement dangereux. Parce que quand on vous dit, quelqu'un vous interroge dans la rue, vous êtes parti de quelle communauté? La communauté est une espèce d'emballage dans lequel quelqu'un qui n'est pas vous vous enferme dans un emballage. Ce monsieur fait partie de la communauté, puisque moi j'ai décidé que ça s'appelait communauté tchétchène ou une communauté n'importe quoi. Ça n'existe pas, c'est pas vous qui avez décidé. Vous avez une religion, vous n'avez pas de religion, vous êtes membre d'une association, d'un club sportif. Ça, c'est vos choix individuels. Le monsieur de l'extérieur, qu'il soit sociologue ou journaliste et tout, qui vous dit « vous faites partie de la communauté », il vous enferme dans son sac à lui, qu'il a décidé. Et quelle est la validité de ce sac? Simplement parce que c'est son choix à lui, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, ne nous laissons pas prendre à ces enfermements dans le vocabulaire d'autrui. Ayons notre propre vocabulaire. Moi, je suis membre de ceci, je suis actif dans cela, je suis dans telle association, je suis parent d'élève, je suis ci, ça. Ça, c'est mes choix. C'est moi qui signe. C'est pas quelqu'un qui me dit « toi, tu es de telle communauté ». Ça, ça veut rien dire. C'est lui qui a décidé, c'est pas moi. Donc, c'est une atteinte grave à la liberté individuelle. C'est un étiquetage, c'est un code barre. Je te colle un code barre, t'es islamiste. Je te colle un code barre, t'es tchétchène et tout. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Simplement, ça sert à diviser. Et ce sur quoi nous devons lutter, c'est la chanson qu'on écoutait tout à l'heure après avoir écouté Yannette, c'est « Le peuple uni ne sera pas vaincu. Le peuple ne sera pas à se faire diviser par les étiquetages communautaires. » C'est très, très dangereux. Voilà. Ça méritait d'être dit en ces circonstances.
Très bien.
Et puis ces circonstances, ben c'est alors vous allez en profiter ces jours-ci, on va beaucoup en parler, le Brexit, j'en dis quelques mots, ben le Brexit va être le Brexit, c'est-à-dire que je pense que le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, et que l'Union européenne, qui fait à grand renfort de grands mots dire qu'on va avoir un accord, en fait n'y croit plus tellement, parce qu'il n'y a pas d'accord, et que je vous dire quand même qu'il y a des règles, enfin il y a des traités internationaux, et que dans les rapports entre pays, c'est pas parce qu'on sort d'une union, donc l'Union européenne en question, que toutes les lois internationales disparaissent. Il y a une organisation mondiale du commerce, il y a des traités, il y a des droits de l'homme, il y a des tas de choses qui peuvent continuer à fonctionner. Et bien les choses continueront à fonctionner sur la base de ces textes légaux signés par le gouvernement britannique, signés par d'autres gouvernements membres de l'Union européenne. Mais ce n'est pas parce que la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni sort de l'Union européenne que la Grande-Bretagne devient un fou furieux sans foi ni loi. Bon. Mais ça, il faut encore un certain temps pour que ça passe. Alors, il y a effectivement des problèmes concrets. Les problèmes concrets, j'ai évoqué la dernière fois celui de la pêche. Il se trouve que les eaux britanniques aujourd'hui sont les plus poissonneuses des eaux de l'Union européenne. Effectivement, mais tous les gens, tous les pêcheurs de l'Union européenne, puisqu'ils font partie de l'Union européenne, vont pêcher dans les eaux britanniques, en particulier les pêcheurs français, c'est vrai. Et si la Grande-Bretagne dit ben, je ne suis pas partie de l'Union et donc les pêcheurs des autres, ils viennent pas chez moi, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, il faudra trouver une solution. Alors, peut-être, ben, il y aura peut-être une négociation là-dessus, mais de toute façon, ça ne change pas. Il y aura une négociation entre un pays souverain, qui s'appelle le Royaume-Uni, et une Union européenne, qui est une association d'États, qui représentera les intérêts des autres. Mais on aura l'occasion, on sent que ça mûrit, on aura l'occasion d'en reparler. Quelques mots alors, du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, il est ce qu'il est, et les critiques qu'on peut faire de sa politique sont nombreuses, on les a faites à l'occasion, mais il observe, c'est-à-dire qu'il a des données entre les mains, il a des chiffres qui viennent des gouvernements, des grandes banques, etc. Il sait en gros de quoi il parle sur l'analyse de la situation économique internationale. Et ce qu'il vient de déclarer donc, dans un communiqué qui émane donc, de la responsable du secteur économique, c'est de dire que la pandémie produisait les effets que d'ailleurs on avait pu relever facilement, c'est-à-dire que c'est les plus faibles qui allaient souffrir. Et il insiste bien, chiffre à l'appui, sur les plus faibles, ça peut être soit à l'intérieur de chaque pays, ce qui se vérifie déjà en France et ailleurs, c'est-à-dire c'est les plus faibles qui souffrent des conséquences économiques de la pandémie, et ça se vérifie aussi dans les rapports internationaux, c'est-à-dire c'est les pays les plus pauvres qui vont le plus souffrir. On a déjà évoqué ça l'autre soir avec Pierre Kipré dans son interview. Le Fonds monétaire ne fait que confirmer, c'est-à-dire que dans une situation de crise qui n'a pas d'équivalent depuis 1929, maintenant tout le monde est clair là-dessus sur les chiffres, effectivement, ce sont les faibles qui souffrent le plus. Et je voulais revenir un peu à ma bête noire, c'est-à-dire qui s'appelle Emmanuel Macron, parce qu'il a annoncé que le gouvernement allait se préoccuper des quartiers populaires. Effectivement, il y a des vrais problèmes d'inégalité, d'accès au travail, d'accès aux soins, etc. Mais il a été heureusement repris, et je m'en félicite, par deux élues marseillaises, en l'occurrence Madame la maire de Marseille et Madame la présidente de la métropole et du conseil départemental, disant que c'était bien joli de faire des phrases, enfin je parle plus sévèrement qu'elles, mais c'est ça qu'elles ont voulu dire, sur la précarité de la situation des gens qui habitent dans les quartiers défavorisés. Elles ont rappelé dans un communiqué que les gens qui habitent dans ces quartiers défavorisés sont ceux qui sont en général en première ligne dans les périodes de confinement et en première ligne dans les difficultés économiques. C'est-à-dire, c'est ceux qui ramassent les ordures, c'est ceux qui conduisent les camions, enfin, tout cela, c'est ceux qu'on a vus et ceux qui ne sont pas confinés chez eux, qui ne font pas de télétravail, parce que ce n'est pas possible. Hein, c'est eux qui sont les plus exposés aux risques épidémiques. Bon, rappelez ça. Et alors, elle rappelle ça, donc c'est des pas de population de ces quartiers-là qui sont en première ligne par rapport à la diffusion de l'épidémie. Et que par ailleurs, M. Macron, en même temps, comme il fait d'habitude, qu'il annonce une politique grandiose avec de très jolis mots, diminue les crédits du fonds de rénovation urbaine qui permettent d'avoir des actions concrètes dans les quartiers. Merci encore, M. Macron, vous êtes tout à fait fidèle à votre personnage à double visage. C'est ça que je voulais dire. Et puis dire un mot rapidement, parce que la situation va encore évoluer, sur le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, alors le conflit du Haut-Karabakh, ou autrement, autre appellation, Artsakh. Alors, on est dans un conflit militaire qui n'est pas, j'allais dire, d'intensité moyenne. Ça ne veut pas dire que je ne considère pas qu'il y a de la casse, des morts, etc. Mais une intensité moyenne, alors qu'on en fait beaucoup de cas au niveau des grands médias internationaux et que ça agite beaucoup la classe internationale. Mais il faut resituer les choses et je vais les resituer d'une façon inattendue. Si vous vous intéressez au mouvement des non-alignés, alors cette vieille histoire, vous savez qu'à Bandung, il se crée donc le mouvement des non-alignés. Ce mouvement des non-alignés continue à mener sa vie. Il regroupe en même 120 États de la planète qui ont décidé de n'être ni du côté, à l'époque, c'était ni d'être du côté des Soviétiques, ni d'être du côté de l'OTAN et des Américains. Donc, ils veulent décider par eux-mêmes avec qui ils travaillent. Donc, ils sont les apôtres et les défenseurs du multilatéralisme. On n'est pas dans un camp. On décide, chaque gouvernement décide. 120 pays du monde, ça fait quand même 50% de la population mondiale aujourd'hui. Ça fait beaucoup de monde. Le mouvement des non-alignés continue son existence depuis la date de cette création et il élit donc à sa tête, il y a un président tournant qui fait fonctionner le mouvement, puis ils tiennent des réunions régulières. Il s'en est tenu une, donc début octobre, à New York, en visioconférence, puisqu'il y avait sur place les diplomates des différents pays membres dans la salle des Nations Unies, et puis des interventions des différents ministres. Et ce que j'ai suivi, c'est assez intéressant, c'est l'intervention du ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan qui prenait la parole à cette occasion, en plein conflit. C'est très, très... Et alors, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que l'Azerbaïdjan est aujourd'hui président du mouvement des non-alignés. Et donc, quand on remet ça en perspective, on dit qu'après tout, ils ont voulu poser un problème qui devrait être réglé. Ce problème territorial est un casse-tête épouvantable. Des Arméniens installés en plein milieu de l'Azerbaïdjan. De l'autre côté, on a Nakhitchevan, l'autre province autonome. Des Azéris coincés entre la Turquie et l'Arménie sans pouvoir aller dans leur pays qui est l'Azerbaïdjan. Enfin, la situation est un casse-tête épouvantable et qui est un lieu de conflit infini. Enfin, ça peut durer autant de temps qu'on n'y a pas travaillé. Bon. Et l'Azerbaïdjan a une position assez intéressante. Il dit, mais en fait, il faut... alors, il a mis un peu le feu aux poudres, mais je pense qu'il ne l'a pas fait tout seul. Je pense que c'est l'hypothèse que je mets en avant, puis on verra si je me suis trompé. C'est que c'est la Turquie qui a poussé l'Azerbaïdjan à la faute. Hein, et alors que l'Azerbaïdjan, qui lui, donc, tient en général, en regardant sa politique, la politique du gouvernement azéri depuis 1991, la dissolution de l'URSS, il a fait attention, effectivement, à ne pas tomber entre les bras de la Russie, ni entre les bras de l'OTAN et des États-Unis. Et donc, il essaye de faire avancer ce conflit, mais la façon dont la Russie l'a poussé à le faire, et dont Israël l'a poussé à le faire, la façon militaire, n'a évidemment aucun avenir, et des problèmes de population. Lui, un certain nombre d'Arméniens qui sont campés, installés en plein milieu de l'Azerbaïdjan, et un certain nombre d'Azéris qui sont coincés dans un territoire qui ne leur donne même pas accès à leur propre pays. Bon, situation absurde dont il faudra bien sortir, et ce n'est pas en tuant 400 000 membres, enfin, population du Nakhitchevan d'un côté et à peu près autant du côté du Haut-Karabakh, qu'on le réglera, il ne faut surtout pas ça. Et ça ne fait pas partie des règles du mouvement des non-alignés qui font la négociation, le politique d'abord, le multilatéralisme. Et donc, bon, l'Arménie n'est pas membre des non-alignés, mais l'Azerbaïdjan fait partie. Beaucoup d'autres pays en font partie, comme le Venezuela, le Bélarus fait partie, la Côte d'Ivoire, etc. Il y a 50% de la population mondiale qui considère que leur pays ne doit pas adhérer à un camp contre un autre. C'est déjà une ouverture dans le sens de la paix générale. C'est ce que je voulais signaler en parlant de cette question sur laquelle on reviendra, mais je pense que ça mûrit et pas dans le sens d'une crise militaire. Et puis rappelez, alors je ne vais pas vous parler du Kyrgyzstan, mais deux mots sur la petite république ex-soviétique qui lui est voisine, qui s'appelle le Tadjikistan. Bon, on a beaucoup parlé de l'Ibérium, j'y reviendrai parce qu'il y a pas mal de documents, on voit que la situation est plutôt en train d'évoluer vers le calme. Mais je ne vous parle pas du Tadjikistan, juste pour vous dire que le président qui est là, le président Ramon, ça ne s'écrit pas comme en espagnol, a été réélu avec 94% des voix, une nouvelle fois, mais conformément à la Constitution, dans un pays parfaitement calme, coincé entre l'Afghanistan, le Kyrgyzstan et la Chine. Voilà. Le Tadjikistan, tout est tranquille. Ben, le président qui est là, qui est content de lui, et quand la population est contente de lui, a été élu avec 94% des voix. C'est des élections dont on ne parle pas, parce que ça se passe dans le calme, tout le monde est content, et donc les journalistes ne s'intéressent pas à ce genre de sujet. Ça me fait plaisir de le faire. Voilà, merci de votre écoute, et puis on va écouter une dernière petite musique qui nous fera penser à nouveau à la Colombie et à l'Amérique latine en cours d'émancipation. Merci Sidi, et on se retrouve mardi prochain.
Ok.
Con el país, digan que se siente ser tan malo, tanta gente alienado, vende patria, escualido de la mente, además eres corrupto y de paso indecente. Saboteos